Asmaïl Moudir, vous êtes la réalisatrice de La mère de tous les mensonges. C'est un film de cinéma. Alors, qui dit cinéma dit image. Peut-on dire qu'à la base du film, il y a l'image, ou plutôt l'absence d'image?
Je commence par l'absence d'image, mais je me retrouve avec 500 heures de rush. Donc, c'était ça l'idée de fabriquer mes propres archives. Et je me retrouve avec beaucoup d'images. Et comment faire monter un film, une histoire, quand on a beaucoup d'images? Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le YouTube et tout ça. On a plein d'images. Et la question qui se pose, est-ce qu'on peut appeler ça l'archive de demain? Et donc, voilà, c'est un film qui commence avec une image qui est pas vrai, sur laquelle on peut poser des questions de réalité, vérité, et on finit par des rushs construits de la mémoire collective et de la mémoire personnelle aussi.
Votre film, c'est ce qu'on appelle actuellement une œuvre à dispositif, qui mêle à la fois le jeu de construction, les arts plastiques, qui mêle la représentation théâtrale et le cinéma. Vous l'avez construit comment, ce dispositif?
Ça m'a pris beaucoup de temps. Je ne travaille pas tous les jours, mais c'est 10 ans de réflexion et de pensée, des idées, de brainstorming. Comment je peux raconter une histoire quand on n'a pas de preuves et quand on a tout effacé? C'était l'idée de revenir sur ce que mon père faisait quand j'étais petite et qu'on reste à la maison à midi. Donc, il faisait chaud à l'extérieur. Donc, il construit des petites maisons en carton pour qu'on joue dedans. Et donc, quand je n'ai pas pu avoir les autorisations pour certains décors, même si j'avais déposé des demandes, l'idée, c'est de revenir à ça et de construire nos propres décors et de ramener les décors vers mes personnages et ne pas le contraire, parce que j'en ai marre de frapper des portes fermées. Et puis, moi, je ne suis pas dans l'industrie cinématographique. C'est que je ne veux pas faire un film qui va dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, non. Je n'ai pas d'idée comment et quand je vais finir le film. Donc, il fallait avoir les choses sous contrôle. Et c'est pourquoi je suis réalisatrice. J'ai fait de la mise en scène, même si les autres, ils ne sont pas au courant de ma mise en scène, mais il y avait de la mise en scène derrière. Et puis, je décide de bouger la famille qui pense, la grand-mère qui pense toujours que les murs ont 2 oreilles à Casablanca. Donc, je propose une idée comme quoi je vais construire des murs sans oreilles dans une autre ville. On va voyager et on va parler, libérer la parole et détruire tous les murs. Et comme ça, ça sera peut-être la thérapie de quelqu'un d'entre nous.
Vous avez parlé de thérapie. Alors, dans cette thérapie, il y a vous, il y a votre mère, il y a votre père, il y a votre grand-mère également. Mmh. Est-ce qu'ils ont été partants tout de suite par rapport au projet, qui est quand même assez complexe, tel que vous leur avez proposé?
Ah non, non, convaincre les gens que tu connais, c'est plus difficile de convaincre des acteurs connus. Non, je crois que c'était ça le point qui était très, très fatigant pour moi et traumatisant des fois, parce que ma grand-mère qui n'a jamais été devant la caméra, elle se retrouve tout d'un coup à Debussy Théâtre à Cannes et va présenter son propre histoire. Donc pour la convaincre, pour qu'on arrive déjà à cette projection, c'était des années et des années. Et je commençais comme vous à installer des micros dans la maison et prendre le son et essayer de comprendre l'interaction avec ma famille, pourquoi, quel rapport ils ont avec la mémoire, quel rapport ils ont avec le quotidien. Et après 2 ans, je commence petit à petit à ramener ma caméra, parce que ma caméra faisait peur. Et voilà, donc ma caméra était une arme au début, mais au fur et à mesure, avec le temps, tout s'en va, comme Léo Ferré le dit. Et même la peur, un peu, s'était adoucie avec le temps, et j'arrive au moins à convaincre la grand-mère de me répondre à mes questions devant ma petite caméra, ce que j'appelle mes propres archives. Et puis, en 2016, je commence à comprendre aussi ce qui s'est passé dans le quartier à travers un reportage que je regardais par hasard dans la télé. Donc la grand-mère, à la dernière minute, elle n'était pas d'accord de bouger de sa maison pour aller à l'atelier, ce que j'appelle le laboratoire, dans une autre ville à Marrakech, de Casa à Marrakech. Donc j'étais obligée de la menacer en ramenant 3 photos des actrices marocaines et en lui disant « tu choisis une parce que je ne peux plus attendre ». Et donc, ça serait toi dans mon film, celle que tu as choisie. Et donc, elle était énervée, elle a dit, c'est mon histoire. J'ai dit, viens la raconter. Et quand il est venu, elle a créé beaucoup de problèmes dans l'atelier, derrière les coulisses. Et j'étais obligée d'être vraiment patiente et de faire tout pour que personne ne rentre chez lui pour finir le film.
Votre grand-mère, au départ, vous la représentez par une poupée. Et c'est quand même elle qui régente la maison avec son bâton. Elle est absolument impressionnante, voire même terrifiante. Et puis, il y a une séquence un peu plus loin où vous faites venir un dessinateur, un caricaturiste, qui dessine son visage, qui est très beau d'ailleurs, sur une plaque de verre. Et puis, elle arrive et là, elle fait quelque chose. Ça, c'était prévu ou c'était vraiment improvisé?
Non, elle était très chiante, elle n'aimait rien. Et moi, j'étais vraiment énervée. Et j'appelle le dessinateur et quand il arrive, je lui dis, écoute, ma grand-mère est une dictatrice, dessine-la comme tu la vois. Comment toi, tu imagines une dictatrice, dessine-la comme ça? Et lui, il l'a dessinée comme le pharaon égyptien. Et elle, avant de commencer la séquence, elle était au courant que quelqu'un va venir pour dessiner son portrait qu'elle n'aimait pas. Et elle me demandait si j'aime pas. J'ai dit, tu es libre, c'est deux vitres, tu peux casser, tu peux faire ce que tu veux. Mais moi, j'étais juste une expression de dire, tu veux pas, tu peux verser. Si tu n'aimes pas ton jus, tu peux le verser. Donc, c'était une expression. Mais elle a pris vraiment les choses. Parce que mes parents, ils étaient juste derrière elle. Donc, je ne peux pas lui dire, casse la vitre, alors que mes parents, ils étaient derrière. Et c'est très dangereux, le verre. Mais elle, j'étais vraiment étonnée. Moi, j'avais très, très peur. Et j'ai bougé de mon moniteur. Je me suis cachée parce que vraiment, les choses sont sorties de mon contrôle. Et c'est le chef opérateur qui a fini le tournage de cette séquence. Parce que moi-même, j'avais peur. Le regard des autres, il était un peu aussi frustrant. Parce qu'on ne savait pas qu'elle va vraiment le faire. Donc voilà, c'était de l'improvisation, bien sûr. Moi, j'ai juste provoqué. Et je l'ai dit dans le film, je l'ai provoqué. Parce qu'elle aussi, elle m'a provoqué jusqu'au bout. Hein. J'ai fait tout pour lui faire plaisir et rien ne lui plaît.
Dans le film, on part de l'intime et après, on arrive à l'historique avec ce qui s'est passé lors des émeutes du pain en 1981, un jour bien précis. Alors, tout à l'heure, je parlais de photos au début de notre entretien. Il y a une photo qui est omniprésente et qui reste jusqu'à la fin du film. C'est cette photo d'Hassan II, cette photo d'Hassan II auquel tient beaucoup votre grand-mère.
Oui, c'est ça de la narration. Chacun a une histoire avec une photo dans le film. Et c'était ça le point de départ. Chacun tient à une photo. Et donc, c'est la photo que ma grand-mère tient. Et puisque le personnage de ma grand-mère, il est tout le temps là, donc elle est associée à sa photo. Toute une génération, elles adorent leur roi. Ouais, elles se réapproprient à leur idol. Elle fait partie de cette génération qui adore la photo et qui la garde toujours. Ouais.
Votre père, j'ai envie de dire qu'il a des mains d'or. Hein. D'abord parce qu'il était gardien de but. A priori, il arrêtait tous les tirs. Enfin, c'est ce qu'il dit, tout au moins. Et puis après, quand on le voit travailler, il est à la fois maçon, il est sculpteur. C'est un véritable plasticien, à la fin, quand il travaille sur les petites figurines. Est-ce que ce travail, qui est quand même un travail extrêmement raffiné, ça lui a permis justement de mettre certaines douleurs à distance?
Oui, mon père vraiment est un artiste dans mes yeux, mais les gens l'appelaient le maçon à Casablanca. Il a restauré plein de murs, les statuettes. Il avait un atelier dans la maison et personne ne fait attention à ce qu'il fait. Mais moi, j'étais toujours attentionnée aux couleurs qu'il choisit pour faire les dessins des piscines, dans les grands villas et tout ça. Donc moi, j'étais toujours avec lui en train de regarder les couleurs. Il était très, très passionné. C'est un artiste pour moi, mon père. Et c'est pourquoi c'était un hommage aussi pour lui. Il n'a pas fait ça tout seul parce que c'était trop de travail. Et on a appelé une équipe de Ouarzazate, mais c'était lui, le designer, c'est lui qui a pensé à l'idée. Au début, il a commencé la construction. Et c'était très, très bien pour moi de voir mon père sur la scène de Cannes. Les gens l'applaudissent. C'était vraiment un moment très, très... C'est de la gloire pour moi, quelqu'un qui n'a jamais été connu, que les gens l'appelaient le maçon, trouve sa place finalement et qu'on l'appelle l'artiste.
Toutes les personnes sont là. Il y a deux hommes en plus de votre famille.
Oui, 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 c'est les voisins.
Et à un moment, je crois que c'est quand ils racontent la prison.
Oui, oui, oui.
C'est filmé en pleine séquence. Et
oui,
là,
oui, oui.
Et là, on a l'impression qu'on est sur un plateau de théâtre.
Oui, 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 c'est vrai. C'était le moment où Abdullah voulait rentrer chez lui. Et c'est à ce moment-là, je lui rappelle que tu es venu pour raconter ton histoire et tu n'as pas fait. Donc, si tu rentres, elle t'a gagné. Le pouvoir t'a gagné. La grand-mère qui est le pouvoir, elle t'a gagné. Donc, elle décide de rester et elle raconte. Moi, j'ai mis en scène tout dès le début, dès le premier jour de tournage, avant même qu'ils arrivent, je savais où je mets le cimetière, je savais où je mets mon théâtre. Moi, j'appelle la place là, je l'appelle cinéma. Et je savais où il est le cimetière. Et à un certain moment, on parle des décors alors qu'on est dans un huis clos. On a essayé d'installer cette idée dès le début. Et donc, lui, quand il revient dans l'atelier, je lui pousse comme dans une ring et je lui dis vas-y, c'est ta journée, raconte ton histoire. Et je demande aux autres de rester l'écouter parce que c'est 100 jours. Donc, lui, quand il a senti que est le héros de la journée et qu'au lieu de rentrer chez lui, ça se transforme en force et il va parler finalement de son histoire. Donc, il a utilisé tout ce que j'ai mis moi pour lui. J'ai mis des ingrédients par terre, j'ai mis la lumière, j'ai mis toute la disposition que je veux moi en tant que réalisatrice, mais j'ai lui laissé vraiment la liberté totale de fumer, d'enlever la chemise. Donc on voit le micro, on s'en fout parce que c'est son moment. C'est comme le ici maintenant, c'est comme oui le théâtre. Moi j'appelle cette séquence le woman show parce que oui, dans le montage, je l'appelle le woman show pour se rappeler parce que c'était un moment magique pour moi où on peut mettre en scène la douleur sans se présenter comme une victime. Au contraire, on le voit comme un héros en train de jouer son drame au lieu de le mettre sur une chaise en train de l'écouter pendant des heures et qu'on pleure avec lui, le pauvre. Non, il n'est pas pauvre. Finalement, il n'est pas pauvre. C'est un héros et c'est c'était ça le sentiment qu'elle m'a dégagé, moi, derrière le moniteur. J'ai rien dit, j'ai même pas bougé. Et j'essaie de ne pas lui laisser le droit de me regarder dans les yeux pour attendre ma réponse. Est-ce qu'il continue pas? J'essaie juste de diriger mon regard contre lui. Et comme ça, il comprend qu'il est dans la bonne voie, qu'il faut juste continuer à raconter. La séquence était très très longue et c'est moi qui l'ai montée. Et j'ai décidé de la laisser comme ça. Parce que pour moi, cette séquence, c'est le film.
Est-ce que le film est sorti au Maroc et comment il a été accueilli? Parce que c'est quand même un film très incisif sur la dynastie royale.
C'est vous qui dites ça. Le film est sorti, il était projeté à Marrakech et avec une salle pleine, les salles d'ambassadeurs, presque 1000 spectateurs. Le film a gagné l'étoile d'or. C'est la première fois qu'après 20 ans de ce festival, un film marocain qui gagne l'étoile d'or. Donc on doit se rappeler du film qui a gagné pour une fois. Donc le spectateur qui dit ça, c'est pas moi. Et c'était la projection la plus chaleureuse après Cannes. Pour moi, c'était la gloire de ces personnages de présenter ce film avec leur public et d'être fière de regarder leur public parler avec la même langue et dire « vous avez fait un truc magique » parce que beaucoup de gens s'identifient dans cette histoire. Et surtout, il n'y a pas que l'aspect politique qui était une toile de fond, mais il y a aussi l'aspect personnel, intime. On s'identifie, cette grand-mère, c'est une maison marocaine qui peut être toutes les maisons de Casablanca, si je ne dis pas du Maroc. Donc je crois que c'était ça l'idéal de présenter le film à Marrakech. Et là, on va sortir bientôt au Maroc, tout va bien. Parce que nous, il faut savoir que ce sujet, ce n'est plus un tabou de parler des années de plan ou de parler de la grève de la baguette ou du pain. Parce qu'il y a une certaine réconciliation qui s'est créée en 2016, pardon. Et cette instance de réconciliation créée par le roi Mohamed VI, c'est ce qui m'a laissé moi-même faire ce film aujourd'hui. Cette réconciliation, cette marée montante des années 90-2000, de faire des films comme ça, d'avoir la possibilité de revenir dans le passé sans craindre rien. Il y a une certaine liberté et il y a une certaine réconciliation avec le passé. Et je suis très très fière de faire ce film sur ce sujet-là parce que peut-être avant c'était un peu difficile. Mais aujourd'hui, je confirme que ce n'est plus un tabou de parler de ça. Ouais. C'est un miracle parce qu'il y a plein de gens qui ont parlé de ce sujet. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est de la part intime et d'entendre des gens pour la première fois parler des choses comme ça.
Le fait de faire le film déjà, de le tourner, puis après de le présenter à Cannes, donc il a eu quand même un certain retentissement, il a obtenu des récompenses. Mmh. Est-ce que ça a modifié les relations à l'intérieur de votre famille?
Oui, bien sûr, on ne sent pas ce que j'appelle la thérapie. J'aime pas parler de la thérapie dans le cinéma parce qu'on guérit personne dans le cinéma. On provoque, c'est ce que j'ai fait dans le film, c'est on a provoqué des choses à travers des figurines, à travers des situations, des constructions, pour ne plus avoir peur de parler de ça. Donc voilà, c'est après des mois et des mois, je découvre que notre relation a changé dans la maison, de bien, bien sûr, parce qu'on avait besoin de parler, de libérer la parole et de comprendre que les murs n'ont jamais des oreilles et que voilà, on a le droit de parler de notre passé librement chez nous, on a le droit d'enlever un peu cette pudeur, de parler des choses, de l'amour, même dans les relations personnelles entre nous. Et je crois que le film vraiment a aidé pour améliorer les relations entre nous.
Votre grand-mère, maintenant, lorsqu'elle parle de vous, elle continue à dire que vous êtes journaliste ou est-ce qu'elle dit que vous êtes réalisatrice?
Bah, j'ai gagné le prix de la mise en scène à Cannes quand même, donc elle doit être fière, mais elle n'a rien compris puisqu'elle a oublié son appareil auditif.
C'est pour ça qu'on le voit au début du film.
Ouais. Donc elle a oublié son appareil auditif à Cannes aussi, mais à Marrakech, elle était consciente que je suis réalisatrice et pas journaliste parce que là, c'était le Maroc et c'était le local et c'était l'héroïne au Maroc. Les gens l'aimaient beaucoup. C'est à ce moment-là qu'elle réalise que je suis une réalisatrice, qu'elle fait confiance qu'un réalisateur ne traîne pas seulement dans les bars, mais il fait la gloire pour son pays et ramène la première étoile pour le Maroc.